Demain dans la Terre, on donne la voix à celles et ceux qui participent à imaginer et bâtir dès aujourd'hui l'avenir agricole et alimentaire de nos territoires. Bonjour à toutes et à tous, je suis Oriane, chargée de communication pour l'association Terre et Humanisme et je vais animer cette rencontre. Aujourd'hui, il s'agit de notre troisième épisode sur ce nouveau format que nous avons pensé pour pouvoir inviter plusieurs intervenantes et intervenants autour d'un sujet précis. Notre trame, ce sont les 12 axes de la résilience agricole et alimentaire des territoires, inspirés du travail des greniers d'abondance. Pour ce troisième épisode, je vous propose d'explorer l'agroforesterie et la santé des sols qui sont des piliers fondamentaux de la résilience alimentaire. Aujourd'hui, on ne va pas seulement parler de planter des arbres, on va parler de système. Pourquoi l'arbre est-il le meilleur ami du sol et comment cette alliance est la clé de notre résilience alimentaire? Et pour répondre à cette question, j'ai le plaisir de vous présenter nos deux invités du jour. Nous avons Nicolas Bayon, animateur et accompagnateur de la Chambre d'agriculture de l'Ardèche. Bonjour.
Bonjour, enchanté.
Et Antoine Morinet-Calmont, directeur de l'ADAF.
Bonjour.
Bonjour. Bonjour à tous les deux. Pour commencer, nous allons évoquer l'arbre et le sol, comment cette alliance est vitale pour l'agriculture et comprendre les mécaniques invisibles qui se passent sous nos pieds. Pour redéfinir un peu l'agroforesterie, Antoine, souvent on imagine juste des alignements d'arbres au milieu d'un champ, mais l'agroforesterie c'est bien plus que ça, non? Quelle est la vision de l'ADAF là-dessus?
Donc oui, l'agroforesterie, l'explication elle peut être très complexe mais aussi très simple. Nous, ce qu'on aime bien dire déjà, c'est qu'on considère un système agroforestier à partir du moment où c'est un système agricole qui intègre de l'arbre. Donc ça peut être de la viticulture, de l'élevage, de la grande culture, du maraîchage. On peut considérer ça comme de l'agroforesterie. Et nous, peut-être la particularité en tout cas qu'on a depuis la création de l'ADAF, donc il y a une dizaine d'années, donc c'est ADAF Arbre et Sol Vivant, on essaye de développer donc ces projets agroforestiers en introduisant de l'arbre dans les systèmes agricoles, mais aussi en essayant de régénérer les sols au maximum et donc en travaillant sur les sols vivants sur les mêmes parcelles, donc sur les sols et sur l'introduction d'arbres.
Ok. D'ailleurs, Nicolas, comment l'arbre travaille-t-il avec un agriculteur au quotidien? Quels sont ses avantages? Comment il fait pour être un acteur avec l'agriculteur sur la terre, finalement?
Pour bien vous répondre, je vais peut-être compléter aussi la réponse d'Antoine sur la définition de l'agroforesterie. C'est du coup l'association d'arbres et de cultures et d'élevage au sein d'un même espace agricole. Donc ça peut être à l'intérieur de la parcelle, mais ça peut être aussi sur le pourtour de la parcelle. Par exemple, les haies, les lisières de bois, éventuellement ça peut être, avec une approche globale de l'agroforesterie, considéré aussi comme de l'agroforesterie à part entière. Et puis on peut pousser le bouchon un petit peu plus loin, puisque le premier exemple d'agroforesterie en Ardèche, ce sont les bois pâturés, le sylvopastoralisme qui concerne plusieurs dizaines de milliers d'hectares dans le département, et rien de nouveau, hein, et c'est de plus en plus d'actualité par rapport à la lutte contre les risques d'incendie, par rapport à l'adaptation au changement climatique, etc. Et puis ces arbres-là, c'est pas forcément que des arbres champêtres ou forestiers, ça peut être aussi des arbres fruitiers, dans des vergers dans lesquels il va y avoir du pâturage ou d'autres cultures. Donc par exemple, on a des vergers de châtaigniers traditionnels en Ardèche, et un tiers de ces vergers, on estime qu'ils sont aussi pâturés. Donc ça en fait un bel exemple de verger haute tige local. Hein. Voilà, donc du coup, il y a de fortes relations entre les agriculteurs et les arbres, qu'ils soient arboriculteurs, viticulteurs, éleveurs, dans le département. Après, c'est pas un département qui est bocager, comme la Normandie, la Bretagne.
Est-ce que tu peux expliquer ce terme, s'il te plaît?
Ouais. Le bocage, c'est un réseau de haies relativement dense qui sépare les parcelles, hein, puisque les haies, c'est des premiers types de clôtures qui ont existé avec les murets de pierres sèches. Et c'est des choses qui sont installées depuis des siècles dans certaines régions, et c'est plus spécifique de certaines régions du nord-ouest de la France. Après, on a des haies dans le département de l'Ardèche, mais pas de manière aussi dense, et moins l'habitude de valoriser les ressources de ces haies, par exemple pour le bois de chauffage ou autre.
D'accord. Antoine, tu voulais ajouter ?
Oui, non, ces systèmes de haies, c'est vrai qu'ils étaient aussi valorisés dans nos départements, plutôt sur des compléments de fourrage, par exemple, pour de l'élevage. et sur des systèmes assez extensifs, donc oui, des réseaux moins denses que dans certains bocages du centre ou de l'ouest de la France.
Oui, quand on voyage, on voit des fois des plaines entières sans barrière naturelle de haies, et on se dit que ça change complètement le paysage. Moi, ayant grandi en Normandie, on avait l'habitude de voir des champs séparés par des haies différentes, et c'est vrai qu'aujourd'hui, ça a bien disparu quand même. On voit bien,
ouais.
Je t'en prie.
Donc ça, après, cet exemple-là, en tout cas, il est quand même assez récent. Hein. Parce que même dans le centre de la France ou la région parisienne ou un peu plus en Picardie où on a ces grandes étendues, avant le remembrement, ça n'existait pas. Enfin, on avait quand même des parcelles qui étaient beaucoup plus restreintes, qui étaient entourées de haies. Donc c'est un certain type de bocage, pas aussi dense, mais il y avait quand même une présence de l'arbre qui était très 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 présente. Et c'était souvent des systèmes en polyculture-élevage. Donc l'arbre, il n'était pas présent uniquement dans le pourtour des parcelles sur les haies. Il était aussi intégré en alignement, et enfin plus ou moins alignement, en tout cas en intra-parcellaire, donc dans les parcelles, notamment pour produire du fruit ou pour des compléments de fourrage, comme je disais aussi, pour l'élevage.
Ok, était évoqué le concept de sol vivant. Antoine, à la DAF, vous liez toujours l'arbre au sol vivant. Pourquoi un sol a-t-il besoin de l'arbre pour être fertile, notamment ?
Oui, c'est vrai que nous, on lie ces deux-là au maximum. Quand on va parler de sol vivant, il y a différents termes derrière. Ça pourrait être agriculture régénérative, agriculture régénératrice, agriculture de conservation des sols. Tous ces termes-là, c'est pour parler un peu finalement des mêmes pratiques qui vont viser à redonner de la vie au sol et de l'auto-fertilité au sol. Principalement, ça va être de garder une couverture maximale des sols sur l'ensemble de l'année, donc éviter d'avoir des sols nus. Et ça va être aussi de limiter vraiment au maximum aussi le labour, le travail du sol. Et enfin, ça va être de diversifier au maximum les cultures. Donc c'est un peu ces trois piliers-là. C'est du cas par cas. Hein. Chaque ferme et chaque sol, vraiment, il y a besoin de faire du cas par cas. Mais en se basant sur ces piliers-là, on va petit à petit recréer de la matière organique, ramener de la vie dans les sols et retrouver toutes les fonctionnalités nécessaire à un bon fonctionnement du sol, en fait. Donc, que ça soit pour avoir les différents minéraux, la fertilité qui va être nécessaire, mais aussi pour pouvoir stocker l'eau, pour pouvoir mieux filtrer l'eau, pour pouvoir stocker du carbone, avoir une pérennité de l'agriculture grâce à ces sols qui seront vivants, du coup.
Je t'en prie, Nicolas.
Oui, toujours pour compléter. Un sol vivant, ben, comme son nom l'indique, il faut aussi le nourrir. Donc par un retour de matière organique, soit par des résidus de culture, des feuilles, des rémanents aussi, par rapport à l'exploitation et à la taille des arbres, par le pâturage, les déjections au sol, ou l'épandage d'effluents d'élevage, en fonction du type de système de production agricole.
Justement, quelle est la différence que tu dois voir dans tes pratiques, dans tes diagnostics que tu peux faire, dans ton travail, entre un champ nu et une parcelle agroforestière en termes de vie ? Vraiment de biodiversité, tu dois voir vraiment la différence, j'imagine.
Bah, la biodiversité, elle est liée à la diversité des espèces, notamment. Hein. Et donc, sur une parcelle agroforestière, il y a une association d'espèces, au minimum deux, hein, entre la culture qui est mise en place, si c'est une culture, mais ça peut être aussi une prairie, hein, et une espèce arborée ou arbustive. Donc déjà, on a une diversification biologique liée à la présence de ces espèces et à leur interaction. Il va y avoir un abri offert aussi par les arbres, une source de nourriture aussi, hein, pour les auxiliaires, mais aussi certains ravageurs. C'est une question d'équilibre aussi entre les populations. Et d'ailleurs, même si on croise ces systèmes agroforestiers dans tous les territoires et toutes les filières et les productions, il faut toujours trouver le bon équilibre entre les arbres, les cultures et l'élevage, en favorisant les interactions positives de ces associations et en essayant de limiter les négatives par rapport à la concurrence vis-à-vis des ressources, que ce soit la lumière, les nutriments du sol notamment, entre la partie agricole et la partie arborée, si celle-ci n'est pas une production agricole à proprement parler, avec les arbres champêtres et forestiers, qu'on oppose aux arbres fruitiers pour la production agricole, évidemment.
D'accord. Je t'en prie.
Et du coup, sur cette question, donc pourquoi faire sol vivant et agroforesterie, c'est parce qu'on se rend compte que ces systèmes-là sont les systèmes qui vont justement avoir le plus de complémentarité et de symbiose dans les interactions qu'on pourra trouver sur la parcelle. ça a des intérêts vraiment à l'échelle de la parcelle au niveau de la production. Tu parlais, Nicolas, de la diversité que ça pouvait amener et donc de la biodiversité. C'est vrai, l'arbre va venir structurer le sol, ramener du carbone dans les sols aussi en profondeur. Donc il va pouvoir modifier la porosité, modifier l'état du sol, hein, mais aussi être source de nourriture et donc de vie dans le sol en profondeur, de par ses nombreuses racines. Il faut savoir qu'un arbre aussi, chaque année, donc il va y avoir toutes les feuilles évidemment qui vont tomber au sol, qui vont venir faire un apport de matière organique, mais il va y avoir aussi toutes les racines fines, les racines annuelles, qui sont un peu l'équivalent des feuilles, mais en souterrain, qui vont donc mourir chaque année, se recréer, etc., et vont venir se dégrader dans le sol. Donc l'agroforesterie, finalement, on se base sur la même chose hein, que sur les sols vivants. On vient remettre de la matière organique, on vient couvrir les sols, on vient diversifier, mais on va aller sur d'autres horizons. En profondeur, on va aller plus loin. On va pouvoir donc atteindre des minéraux qu'on ne pouvait pas atteindre juste avec les cultures annuelles. Il y a une complémentarité vraiment de l'arbre et des cultures et des bandes donc d'interculture qui seront entre les arbres qui vont faire qu'on va pouvoir pousser encore plus loin les interactions naturelles et pouvoir essayer de produire finalement un maximum en se basant uniquement sur ces intrants naturels. Un des objectifs, c'est de limiter les intrants, que ça soit pesticides, mais que ça soit aussi les intrants azotés. C'est pas si simple, hein, parce qu'il y a des phénomènes de concurrence, donc c'est pour ça qu'un système agroforestier, il faut faire attention, il faut pas le faire n'importe comment, pas mettre n'importe quel arbre, en n'importe quelle densité, dans n'importe quelle orientation, parce qu'on peut avoir des concurrences, que ça soit au niveau de la lumière, de l'eau, de l'azote, et donc on peut avoir plutôt des effets négatifs sur la production qu'il y aura autour, que positifs si on n'a pas bien pensé le système en amont.
Ouais, c'est pas si évident que ça. C'est pas juste planter des arbres et c'est bon.
Non, c'est pas une solution magique où il suffit d'intégrer l'arbre et ça va pousser tout seul. C'est plus complexe que ça, oui.
Nicolas ?
Oui, effectivement, c'est plus complexe qu'une monoculture. Hein. Donc, ça demande des savoir-faire et une technicité peut-être un peu plus grande de la part des agriculteurs ou des agroforestiers. Et un bon système agroforestier bien conçu va pouvoir maximiser la productivité à la fois des arbres, mais aussi agricoles. Voilà, donc globalement, sur une parcelle bien conçue en termes d'aménagement agroforestier, la production des deux compartiments, à la fois arbres et culture ou élevage, va être un peu plus importante que les deux espaces séparés, d'un côté les bois et la forêt, et de l'autre côté les cultures et l'élevage.
Ouais, et c'est pas négligeable. Hein. En moyenne, ça peut aller jusqu'à 40% de plus de productivité au niveau biomasse, et c'est rarement, dans toutes les recherches qui ont été menées, et notamment dans le sud-est, parce qu'il y en a eu pas mal dans l'Hérault, c'était un minimum de 25% quand même de production de biomasse en plus. C'est pas négligeable et ça permet aussi de relier des enjeux beaucoup plus larges. Donc là, on ressort de l'échelle parcellaire et du fonctionnement de la ferme et on peut aller parler de carbone, voilà, de biodiversité, d'optimisation de l'énergie solaire, etc. Parce que si l'ensemble des cultures, si on extrapole et qu'on se dit qu'on va faire 30% de plus en production de biomasse à l'échelle de la France ou de l'Europe ou plus, là, on peut vraiment avoir des effets, des impacts sur le climat, des impacts sur l'autonomie qu'on aurait aussi parce qu'on va ramener énormément de biomasse au sol, on va pouvoir le nourrir. Si on extrapole derrière, c'est vraiment non négligeable.
Bien sûr, ouais. Quand je vous entends parler, il y a vraiment cette idée que l'arbre est vraiment multi-service pour la biodiversité, pour l'humain, l'agriculteur en général. Et justement, Nicolas, quels sont les services concrets qu'il rend à l'agriculteur au quotidien l'arbre, si tu peux nous expliquer un petit peu.
Oui, ben, tout à l'heure, on a parlé de vergers agroforestiers. Donc, du coup, les arbres, en l'occurrence, dans des vergers, ce sont des arbres qui sont là pour produire des fruits. Donc, déjà, une production à but nourricier. Voilà. Le bois, ça peut produire bois de chauffage, mais aussi pour pailler la litière, pailler des plantations, puis toutes les utilisations qu'on peut imaginer autour du bois. Ça peut être aussi une source de diversification d'activités hein, au niveau productif pour les exploitations, pour faire des piquets, des clôtures. Ce sont aussi des puits de carbone dans la biomasse souterraine et aérienne des arbres, c'est pas négligeable. On n'a pas parlé de ripisylves jusqu'à présent. Donc, les ripisylves sont des végétations ligneuses en bordure de cours d'eau. Et ça peut permettre de protéger à la fois le cours d'eau, mais aussi consolider les berges. À l'échelle du paysage, ça définit aussi l'image qu'on a. Vous parliez tout à l'heure de la Normandie avec son bocage, etc. C'est une signature aussi, hein, pour certaines régions. On imagine mal la Normandie ou la Bretagne sans son réseau de haies. Donc ça aussi, c'est important d'un point de vue patrimonial. Au niveau des franges urbaines, ça permet aussi de faire une séparation nette aussi en termes de production, en termes d'image, entre les espaces agricoles et les espaces urbains. Ça permet de produire du fourrage aussi à certaines conditions. On peut couper des branches, émonder des arbres pour nourrir le troupeau. La fabrication aussi, la pollinisation et la production de miel. La fonction brise-vent dans des territoires qui sont un peu ventés, et ben, ça peut avoir un impact sur les rendements des cultures, mais aussi sur le bien-être animal. Donc là, c'est aussi essentiel d'aménager des brise-vents avec des arbres. L'adaptation au changement climatique, évidemment, hein, avec les conditions d'ombrage, le microclimat, les microclimats qu'on peut aussi créer, favoriser avec la présence des arbres. L'effet antidérive par rapport aux produits phytosanitaires, ça, c'est très important aussi pour bien compartimenter l'espace entre les agriculteurs conventionnels et les agriculteurs bio, par exemple, mais aussi par rapport aux espaces publics, voilà, donc en limite d'habitation, par exemple, c'est important. Pour la qualité aussi de l'eau, ça permet aussi de renforcer la fonction d'épuration des sols, hein, et de filtre des sols pour assurer encore un peu mieux la qualité de la ressource en eau. Puis la biodiversité avec les corridors biologiques, avec la création d'habitats aussi pour certains animaux. Un espace finalement multifonctionnel pour les aménagements agroforestiers en général.
Antoine ?
Ouais, bah non mais c'est parfait, t'as donné tous les beaucoup d'enjeux sur lesquels peuvent influer les arbres, et aussi une autre des raisons pour lesquelles on plante pas mal dans la région, ou ce que ça peut vraiment apporter à une ferme, à un agriculteur, une agricultrice, c'est sur la structuration des parcelles pour gérer les flux d'eau. Donc, c'est-à-dire, quand on a des fortes pluies, faire en sorte qu'à la place d'avoir beaucoup d'érosion, on oriente l'eau, on la ralentisse, on l'infiltre, on arrive à mieux gérer cette eau-là, donc qu'on puisse en bénéficier plutôt qu'elle s'échappe très rapidement de nos parcelles tout en créant des dégâts, en accélérant. Parce qu'aujourd'hui, les parcelles sont beaucoup structurées de cette manière-là, donc avec des fossés, avec des aménagements qui vont être très rectilignes, dans les sens de pente beaucoup, et qui vont plutôt augmenter les dégâts potentiels des fortes pluies plutôt que faire bénéficier les parcelles de cette eau qui est nécessaire et qui le sera de plus en plus demain. Et ça, c'est vraiment aussi une des raisons pour lesquelles on plante beaucoup, parce que ces pratiques-là, qu'on peut aussi peut parler d'hydrologie régénérative pour cette approche-là, elle ne peut pas être dissociée de système agroforestier. L'arbre, il a un rôle vraiment primordial là-dedans, parce qu'il permettra de maintenir l'ensemble des aménagements qu'on va mettre en place. On va parler de fossés, de baissières, de fossés à redans, enfin de différents types d'aménagements techniques qui permettront d'orienter l'eau, de l'infiltrer, de la ralentir, de la répartir sur les parcelles.
Et l'arbre est vraiment un accompagnateur, enfin même un aidant sur ce genre, ce type de problématique.
Complètement, parce qu'on a besoin de lui pour qu'il puisse mettre ses racines aux bons endroits, qu'il puisse du coup tenir toutes les mini berges qu'on va créer, tout en créant de la porosité, et donc ça permettra aussi d'améliorer l'infiltration, donc recharger les nappes, filtrer l'eau, donc améliorer la qualité de l'eau. On peut pas faire sans.
Ouais, ouais. Nicolas.
Oui, du coup, Antoine a parlé de l'hydrologie régénérative. Effectivement, il y a de nouveaux projets de plantation et d'aménagement qui participent à ce nouveau concept. Mais en fait, ça ressemble à ce que les anciens faisaient autrefois pour limiter le ruissellement, hein, tout simplement. Voilà, donc avec aussi les béalières, ou les béales, qui sont des petits canaux aussi, qui permettaient aussi de répartir l'eau dans les champs et l'évacuer aussi. Et les rigoles également, sur la montagne ardéchoise. L'hydrologie régénérative permet de maximiser quand même et de rendre plus efficace le système. Effectivement, on le fait de manière un petit peu plus technique, peut-être, que les anciens, mais voilà. Donc, c'est pas quelque chose de complètement nouveau.
Okay. C'est sûr. Pour finir cette première partie, je voulais vous poser une question ouverte. Si vous deviez être un arbre, ou si vous aviez un arbre coup de cœur qui symbolise cette alliance avec le sol, lequel ce serait et pourquoi ? Nicolas, tu veux commencer ?
Oui, mais pourquoi pas ? Après, moi, c'est mon coup de cœur personnel, hein. Voilà, donc c'est, ça serait le mûrier, même si c'est considéré encore comme une espèce exotique par les conservateurs botaniques, puisqu'ils sont présents seulement depuis quelques siècles sur nos territoires. Ils viennent d'Asie, ils participent quand même à l'histoire de l'Ardèche, de la Drôme, avec la sériciculture, l'élevage de vers à soie et la production de soie. Et ils retrouvent en plus ces dernières années un usage pour l'alimentation des troupeaux, puisqu'on a découvert ou redécouvert la valeur alimentaire nutritive du feuillage de mûrier, qui est au moins aussi intéressante que celle du maïs. Voilà, donc il faut l'utiliser avec un raisonnement, hein, évidemment, hein, il faut pas tout nourrir les troupeaux uniquement à partir de ça, mais ça peut être une ressource fourragère complémentaire très, très intéressante. Et d'ailleurs, il y a la ferme expérimentale du Pradel à Mirabel, ferme caprine, qui teste depuis quelques années ce fourrage en alimentation du troupeau de chèvres, donc avec des résultats très, très intéressants.
D'accord. Antoine, ton petit... C'était un arbre.
Oui, c'est dur de choisir, mais moi, peut-être, je dirais le cormier, parce que donc, le cormier, c'est un arbre qui est très présent dans nos régions et qui est vraiment aussi adapté, qui est capable de résister en fait aux changements climatiques qu'on commence déjà à subir, et c'est un des arbres d'avenir qu'on peut vraiment utiliser en agroforesterie, mais aussi parce que là, si on se focalise sur les interactions arbre-sol, on n'a pas encore parlé des systèmes vraiment en détail racinaire des arbres. Mais le cormier, c'est un arbre donc qui est qu'on va dire endomycorhizien. Donc les mycorhizes, c'est toutes ces organismes qui vont venir aussi se créer des symbioses avec les racines des arbres, et qui vont permettre à l'arbre finalement d'aller chercher beaucoup plus loin dans les sols, d'aller mobiliser beaucoup plus d'éléments nutritifs plus loin dans les sols. Et c'est, en gros, si je simplifie, sur les mycorhizes, il y a deux types de mycorhizes qui s'associent aux racines des arbres. Il y a les endomycorhizes et les ectomycorhizes. Les ectomycorhizes vont plutôt être liés aux arbres forestiers, donc avec des milieux fermés. Et c'est les arbres qu'on va moins peu utiliser en système agroforestier, hors système de forêt pâturée, hein, mais dans les systèmes agroforestiers plutôt ouverts, on va travailler avec des endomycorhiziens, principalement, et comme par exemple le cormier, mais comme aussi la plupart des rosacées, donc de la famille, la plupart des fruitiers, la plupart des sorbiers. Et c'est des arbres qui ont des systèmes racinaires souvent qui sont aussi compatibles parce qu'ils sont... Ils sont moins puissants que certains autres arbres, et donc ils vont limiter les effets de concurrence, tout en amenant déjà un certain nombre de bénéfices. Voilà, donc je dirais, pour ça, je dirais le cormier.
Nicolas, un petit mot ?
Tout simplement pour dire aussi qu'il existe un autre type de symbiose racinaire au niveau de nodules, avec une bactérie, le rhizobium, donc la symbiose rhizobienne, qui permet d'assimiler l'azote atmosphérique au niveau des racines de certaines plantes et de certains arbres. Et donc ça permet d'avoir aussi une meilleure fertilité des sols, avec ces plantes qu'on appelle les légumineuses, hein, globalement, pour faire simple.
Ok.
Qui malheureusement, qui chez les arbres sont assez limités en diversité, mais c'est une des raisons quand on tire un peu le fil, on peut aller techniquement assez loin sur justement tous ces échanges arbres et sols. Et tout à l'heure, on parlait de ramener de la complexité dans les parcelles. Ben c'est vrai que quand on travaille avec les agriculteurs et agricultrices, ils ont besoin de connaître et de maîtriser aussi tout ça pour comprendre leur système.
Et ouais.
Voilà, c'est aussi important. Mais c'est ce qui est intéressant avec l'agroforesterie.
Eh ben, merci pour cette première partie. Nous avons vu pourquoi l'arbre est l'allié du sol. Dans la seconde partie, nous verrons comment on passe de la théorie à la pratique sur le terrain et comment cela s'inscrit dans la résilience de nos territoires. Merci pour votre écoute et à la semaine prochaine.